Ces derniers temps, je me pose souvent cette question. Est-ce que j'en fais suffisamment pour Dieu? Est-ce que lorsque je regarde ma vie, je peux dire que je sers assez? Est-ce que je peux dire que je loue assez? Que je témoigne assez? Est-ce que quand je regarde ma vie, je peux dire que je me sacrifie assez? Que je me rabaisse assez? Est-ce que je peux dire que j'obéis assez à Dieu? Que je lis assez ma Bible? Est-ce que quand je regarde ma vie, je peux dire que je prie assez? Est-ce que je suis un assez bon frère? Est-ce que je suis un assez bon fils? Un assez bon ami? Est-ce que je suis un assez bon chef de cœur? Est-ce que je suis un assez bon enseignant? Et la plupart du temps, à cette question, à ces questions, eh bien, j'ai cette réponse qui les élude. La foi seule me sauve. La foi seule me sauve. Et cela est vrai, frères et sœurs. Cela est vrai. La foi seule me sauve. Récemment, je discutais avec une sœur et je lui posais cette question. Comment, d'après toi, on obtient le salut? Elle me fait sa réponse et je lui dis, moi, je vais te dire ce que je crois. Et quel ne fut pas son étonnement lorsque je lui ai dit, il n'y a que la foi qui sauve. Je n'obtiens le salut en Jésus-Christ que par ma foi. Peu importe mes actes, peu importe mes œuvres. Seule la foi que j'ai en Christ me sauve. Croire en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, incarné et ayant vécu parmi nous, cette entité qui était, qui est Dieu, s'abaisse à la condition humaine, bien plus il s'incarne dans un homme modeste, sans toi, rejeté par beaucoup. Il meurt en croix. Pas pour rien ou pas pour dire regardez les gars ce que je suis capable de faire. Je suis tellement bon et fort. Non, c'est pas pour ça qu'il meurt le Christ. Il meurt car c'est moi qui devais mourir et il prend ma place. Il m'extrait d'une situation que je méritais. Et il ressuscite et il règne avec Dieu. De croire cela, frères et sœurs, il suffit. Vous invite à prendre le passage que nous allons étudier un peu ce matin, qui est en Éphésiens chapitre 2. Les 9 premiers versets. Éphésiens chapitre 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde. Conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Voilà ce que nous enseigne Paul dans ce chapitre 2 d'Éphésiens. Voilà ce que Paul nous dit. Vous n'avez pas à vous astreindre à une liste de choses à faire. Il faut simplement accepter ce cadeau. Cette sœur à qui je posais la question de comment obtient-on le salut me disait, mais alors, si Hitler avait cru à la dernière minute de sa vie, il aurait été sauvé ? Je crois que oui. Seule la foi en Jésus-Christ, une foi sincère en Jésus-Christ, sauve. Seule l'acceptation du cadeau du salut nous fait entrer dans la sainteté. Et dès lors, nous sommes saints. Nous avons un autre statut. Le statut de saint, de sauvé, de blanchi, d'acquitté. Il n'y a plus de condamnation, nous sommes enfants de Dieu, membres de l'Église, participants à la gloire divine. Et tout cela sur la seule base de la foi ? Eh bien oui. Seule la foi sauve. N'est-ce pas merveilleux ? N'est-ce pas incompréhensible pour nos faibles intelligences ? Je crois que saisir un peu de cela, c'est comprendre un peu l'amour ineffable que Dieu a pour nous. Nous sommes sauvés sur la seule base de la foi. Alors à la question « En fais-je suffisamment pour Dieu ?», la réponse est une autre question. Est-ce qu'un jour je pourrai en faire suffisamment pour Dieu ? La réponse est non. La réponse est non. Cependant, si seule la foi sauve, si seule cette foi peut me sauver, dois-je la menotter ? Dois-je menotter ma foi pour l'empêcher qu'elle s'exprime dans ma vie ? Dois-je n'avoir que cette foi sans les œuvres que Jacques qualifie de morte ? Dois-je me contenter du minimum ? Ou bien dois-je laisser Dieu exploser dans ma vie, le laisser envahir tout ce que je suis ? En somme, dois-je vouloir progresser dans la sainteté afin de me rapprocher de Dieu, pour mieux le glorifier dans ma vie ? La réponse est oui. Je me suis souvent contenté de me dire « je crois donc je suis sauvé ». Et c'est vrai. Mais Dieu m'invite à tellement plus que cela. Dieu m'invite à une vie tellement plus abondante. Et cela passe, frères et sœurs, par une progression dans la sainteté. Et il s'agit de ce qu'on appelle la sanctification, un chemin de progression vers Dieu. Nous sommes saints, nous sommes sauvés par la foi, mais Dieu nous invite à la sanctification, à la progression vers lui. Alors peut-être par peur de ne pas froisser les membres de l'Église, on entend assez peu cet enseignement, cette idée de progresser constamment. Ne vous contentez plus de votre relation présente avec Dieu. Approchez-vous de lui. Ayez ce souhait-là, cette soif-là de vous approcher de Dieu. On va prendre un deuxième passage. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 1 à 3. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 3. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur, progressez encore. Vous savez, en effet, quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Paul nous dit, en fait, « Ok, les gars, maintenant vous êtes sauvés, vous avez la foi. C'est bon, ça vous l'avez, vous êtes sauvés. Je vais vous expliquer maintenant comment plaire à Dieu. » Progressez encore. Ne vous contentez pas d'être des chrétiens de théorie, d'être des chrétiens intellectuels, d'être des chrétiens de gribouillage spirituel, d'être des chrétiens à minima. Ce que Dieu veut, c'est votre progression. Dieu vous a consacré à un usage saint. Waouh! Moi, Seigneur, c'est ce que je veux vivre. Mais comment faire? Je reprends la lecture là où je l'ai laissée en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ok, moi je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais en lisant ça, moi j'ai du pain sur la planche. Mais je veux pratiquer ces choses. Je veux faire tous mes efforts pour pratiquer ces choses. Et sur la base d'une seule motivation, l'amour que j'ai pour Dieu. Pas pour gagner le salut, on l'a vu, seule la foi est nécessaire. Mais pour plaire à Dieu, je veux pratiquer ces choses. Je n'ai donc plus de liste à suivre, mais un sentiment d'amour pour mon Dieu qui m'envahit. Je prends encore un autre verset pour vous dire que la Bible est remplie de ces encouragements à progresser vers Dieu. Cette fois-ci, nous sommes en Hébreux au chapitre 12, versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et recherchez la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Recherchez la progression dans la sainteté. Je ne veux pas me priver de ta grâce, Seigneur, en restant un chrétien à minima. Alors, comment dépasser ce statut de chrétien à minima? Comment dépasser ce qui me retient de vivre la sanctification? Nous prendrons notre avant-dernier passage pour ce matin, qui se situe cette fois-ci dans les Évangiles, en Matthieu au chapitre 5. Versets 38 à 48. C'est Jésus qui parle. Voici ce qu'il nous dit. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Je connais bien ces passages, mais en le relisant récemment, je me suis focalisé sur quasiment le tout petit de ces versets. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Moi, ça m'interpelle. J'aime bien la course à pied, donc dès qu'on parle de kilomètres, Ça attire mon attention. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Alors je me suis un peu penché sur le sujet. Pourquoi est-ce que quelqu'un m'obligerait à faire 1 kilomètre avec lui? Je vais vous raconter pourquoi est-ce que Jésus dit ça. Vous savez, le peuple romain, au-delà d'être un peuple un peu sanguinaire, polythéiste et tout ce qu'on veut, c'était un peuple rusé et malin. Les Romains, dans les pays qu'ils avaient conquis, avaient promulgué une loi qui leur permettait de forcer un habitant du pays conquis à faire 1 kilomètre avec eux. Pas pour discuter, hein. Pour porter le pactage. Pour porter le pactage. Et on peut s'imaginer, nous, Français, sous l'occupation allemande, les Allemands nous ont tué des gens de notre famille, nous pillent, nous affament, et là on est en train de travailler dans les champs parce qu'on n'a plus que ça pour vivre, on est en train de suer pour ça, et là un soldat allemand vient et dit « bah toi tu viens avec moi et tu vas porter mon pactage de 15 kilos pendant 1 kilomètre ». L'humiliation, quel sentiment d'humiliation on pourrait alors ressentir. Les Juifs, c'était pareil, et peut-être que les Juifs étaient un peuple un petit peu plus fier que les autres, et à combien plus forte raison ça devait les humilier, ça, hein ? À tel point que les Juifs, en réponse à cette loi, à 1 kilomètre de chez eux, ils avaient mis des balises pour ne pas faire 1 mètre de plus. C'était à 1 kilomètre la balise, et ils n'allaient pas faire plus qu'un kilomètre. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Voici ce que Jésus, en fait, est en train de nous dire. Mon ami, j'ai un défi pour toi. Fais plus que le minimum. Ta foi en moi te sauve. Mais allez, vas-y, fais un peu plus. Fais un peu plus qu'un kilomètre. Cette tendance à faire le minimum, vous savez, ça ronge notre société. Quand vous allez à la banque, à la préfecture, ou même si vous allez voir un médecin, que vous lui demandez quelque chose, déjà s'il le fait, c'est bien, mais il va faire minimum. Hein. Il ne va pas faire plus que ce que vous lui avez demandé. Pour illustrer encore le fait d'en faire le minimum dans notre société, j'ai cette petite histoire à l'école. J'avais des amis qui disaient « Je suis trop content ». J'ai révisé 10 minutes mon contrôle, j'ai eu 10 sur 20. Magnifique. Et ils s'en satisfaisaient largement. Moi, je vous pose cette question. Avez-vous envie de paraître devant Jésus en ayant une vie de minimum? De vous présenter devant Jésus avec ce tout petit bilan. Alors vous êtes sauvés parce que vous avez la foi, mais ce tout petit bilan. Comme ce serviteur dans la parabole des talents n'a pas fait fructifier son don. Je serais tellement triste d'avoir passé ma vie au ras des pâquerettes, de n'avoir jamais décollé pour Dieu. On va prendre un autre passage, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15. Corinthiens 3, 9 à 15. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le passage, il est très interrogeant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Passer, mais comme au travers du feu. En fait, c'est passer ric-rac. Passer juste avec le minimum. Vous savez, comme les gens qui font du limbo. Ils frôlent la barre et puis d'un seul coup, ils arrivent à passer la barre. Ils passent ric-rac. Moi, je ne veux pas ça. Pas pour me glorifier moi-même, mais pour plaire plus à Dieu. Je veux que ma vie glorifie Dieu. Je ne veux pas m'arrêter au premier kilomètre en abandonnant Jésus à cette balise que j'ai mise à un kilomètre de chez moi. Je veux faire ce deuxième kilomètre. Personne ne m'y oblige, mais je veux le faire. Savez-vous comment j'ai intitulé mon sermon? Vous savez que je donne toujours un titre, hein, vous le savez maintenant. Et généralement, je vous le dis au début, là, je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai appelé la balade des gens sanctifiés. Ce n'est pas forcément une balade au soleil sur un beau sentier boisé. Non, c'est la balade où celui qui est forcé de marcher décide de faire un kilomètre de plus. Alors pourquoi 2 kilomètres? Parce que le deuxième kilomètre est miraculeux. Le second kilomètre est le kilomètre qui change tout, qui change notre attitude. Le premier kilomètre est le kilomètre de l'esclave, celui des obligations. Le second est celui de l'homme libre. Le premier kilomètre est le kilomètre de la victime. Le second est celui du vainqueur. Le premier kilomètre est celui où l'on est contrôlé. Le second est celui où l'on prend le contrôle. Le premier kilomètre est le kilomètre de la loi. Le second kilomètre est celui de l'amour. Le premier kilomètre est celui de l'amertume quand on est forcé de faire quelque chose. Le second kilomètre est celui qui amène à la liberté en Jésus-Christ. Dans le second kilomètre, tu sais que tu ne fais pas ceci ou cela par obligation. Tu ne traînes plus les pieds. C'est ton choix. C'est le choix de plaire à Dieu, de dépasser la simple foi, de la laisser s'exprimer en Jésus-Christ. J'en termine à présent et en illustrant avec un des exemples de mon frère Carlus. Vous savez que on lit la Bible et on essaye de se voir une fois par semaine en débriefant tout cela. Et puis un jour, on essaye de lire une trentaine de chapitres par semaine. Et puis un jour, on se voit et puis on débriefe. Et puis on arrive à la fin des passages qu'on devait lire. Et puis Carl me dit, mais on n'avait pas en plus Thessaloniciens à lire? Il avait commencé son deuxième kilomètre. Le second kilomètre est celui qui amène plus loin que le premier. Le premier kilomètre, ça peut être le kilomètre de la croyance en Dieu, de la prière avant les repas, d'un vague sentiment d'amour pour le prochain ou de la présence le dimanche matin à l'église. Le second kilomètre vous fait faire des choses complètement folles pour Dieu. Il ne vous fait penser plus qu'à lui. Tout le temps. Alors, est-ce que j'en fais suffisamment pour Dieu? C'est clair que non. Mais Seigneur, je veux faire ce deuxième kilomètre pour toi. Et nous concluons par le dernier chapitre, en Apocalypse, chapitre 22, au verset 11, dernier chapitre de la Bible. Que celui qui est injuste commette encore des injustices. Et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Amen.